Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ça y est, nous voilà bel et bien déconfinés. La fin d'un temps inédit pour chacun d'entre nous peut être déjà loin, mais qui nous aura probablement marqué. Pour nous aider à le relire, nous avons fait le choix de nous faire prendre par la main par un homme qui, lui, ne va pas sortir de sitôt, comme je le disais lundi précédent et lundi en 15, si je puis dire, le père abbé de l'abbaye bénédictine d'Ancalca. Quoi de mieux, en effet, qu'un moine pour nous aider à relire ce temps et nous donner à la lumière de la parole de Dieu quelques conseils pour en sortir plus sages. Sortir du temps de déconfinement avec le père abbé de l'abbaye d'Ancalca, avec la même introduction que les deux semaines précédentes, mais parfois ça a du bon peut-être de répéter les choses. On est avec vous à nouveau, frère David, vous êtes prêtre moine bénédictin et donc père abbé de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît d'Ancalca dans le Tarn. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Pour cette dernière rencontre et dernier temps donc de relecture, on prend le temps, peut-être au risque d'en agacer certains qui ont envie de passer à autre chose. On essaye de prendre le temps de relire ce que l'on a vécu et puis de le faire donc à la lumière de votre expérience, de ce que vous êtes, puisque vous êtes donc un moine, et l'évangile selon saint Marc que l'on parcourt avec vous, puisque vous avez pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi les deux précédentes émissions, écrit un ouvrage intitulé « Marc, l'histoire d'un choc » paru aux éditions du Cerf, c'était en automne, à l'automne dernier. Comme à chaque fois dans cette première partie d'émission, on va faire connaissance un petit peu plus avec vous, et avec Marc, l'évangéliste, avec vous et avec donc votre vie, la vie des monastères, avec comme angle aujourd'hui un lieu de rencontre et d'amitié des périphéries. Alors les périphéries, c'est donc cette expression chère au pape François pour... que les chrétiens visualisent qui sont ces périphéries, c'est-à-dire les gens qui sont loin de nous, de notre quotidien, qu'on ne connaît probablement pas assez. On a l'habitude de lire dans la presse que, dans le fond, les seuls lieux, quelque part, qui attirent encore du monde, les seuls lieux chrétiens qui attirent encore du monde en France, ce sont les sanctuaires et les monastères. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie chez vous ?
Certainement de façon très, très fréquente, très quotidienne, par l'accueil. L'accueil, c'est les hôtelleries, nos gîtes qui permettent d'accueillir des groupes, que ce soit des groupes de jeunes, des paroisses. Ça ne désemplit pas, sauf depuis 2 mois, enfin pendant 2 mois, on a eu cette période étrange où nous étions un peu seuls au monde.
Ça fait combien de personnes qui passent à peu près chaque année?
La moyenne, c'est 25 personnes par jour qui sont là, qui sont nourries. En plus, il y a tous ceux qui ne font que passer, mais ça, impossible à compter. Mais ceux qui mangent avec nous, c'est 25 personnes par jour, ce qui est beaucoup pour une communauté de seulement 40 moines, hein, 44 moines. Donc, une présence vraiment très, très prégnante, très importante, qui n'est pas forcément très bavarde. Ça ne veut pas dire qu'on rencontre ces personnes personnellement pour parler, non. Mais elles sont là avec nous, à l'office, au repas en silence. Elles partagent notre tempo aussi. Je crois que ce qui rend le monastère un lieu fort dans le temps que nous vivons, c'est le rythme très particulier de la vie au monastère. Ce rythme, je sais que personnellement, moi, ce rythme m'a sauvé pendant le temps du confinement, c'est-à-dire être convoqué 5-6 fois par jour à la prière avec les frères. Ça donne un rythme à la journée qui évite de gamberger, qui évite de se perdre dans des mauvaises questions.
Si on revient aux périphéries, il y a une manière de qualifier ces périphéries. Je voudrais avoir une approche un peu plus sociologique pour commencer. On a pas mal entendu parler d'un homme qui s'appelle Christophe Guillouis, qui est donc un géographe qui a écrit des ouvrages sur la France des périphéries. En soulignant, donc c'est des choses maintenant bien connues depuis la crise des Gilets jaunes, les différences entre les grandes métropoles et les périphéries. À quoi ça ressemble les périphéries qui viennent au monastère Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce que vous lisez dans la presse, ou peut-être même si vous avez lu cet homme ou des interviews de cet homme?
Je connais mal, j'ai entendu parler, j'ai lu quelques articles, mais je ne connais pas personnellement. Je suis frappé, moi, par la diversité, effectivement, des personnes qui viennent au monastère, qui sont diverses au niveau religieux. Ça peut être les bons catholiques pratiquants, comme on dit. Ça peut être des agnostiques, des personnes en recherche, souvent en recherche, hein. On ne vient pas au monastère tout à fait par hasard, mais avec le sentiment qu'on n'y sera pas tout à fait dans le système. Je crois que le monastère se situe lui-même comme étant à la périphérie, dans l'église, sur une petite bordure qui est aussi une voie d'accès, qui permet, parce que le monachisme est un phénomène interreligieux. Il n'y a pas seulement des moines chrétiens, il y a des moines bouddhistes, il y a des moines soufis. Le monachisme, c'est un mouvement vers Dieu qui, en quelque sorte, est de toute religion, une sorte de mise en route. Je pense aux moines indiens qui sont itinérants, qui sont des mendiants errants. Ben voilà, quelqu'un qui se met en route à la recherche de Dieu, sans pour autant entrer dans le système. C'est un peu ça, le moine. Il y a toujours un côté révolté chez le moine. Toujours un côté pas à l'aise dans le système. Le système, ça ne peut pas marcher. Même quand c'est le très beau système, la très belle institution église, le moine, il est là pour ficher des graviers dans la mécanique. À partir du moment où la mécanique roulerait trop bien, c'est plus la mécanique de Jésus, c'est plus du vivant.
Est-ce que vous avez l'impression, au regard du nombre de personnes que vous accueillez, que contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, il y a beaucoup plus de chercheurs de Dieu, voire même de croyants? Je retombais comme ça, où je me suis replongé rapidement dans un sondage du journal La Croix qui était paru en 2018, que je cite souvent à cette antenne, sondage OpinionWay, qui laissait entendre que 52% des 18-30 ans se disent croyants. À la fois, il y a de moins en moins de pratiquants, et en même temps, l'impression qu'il y a de plus en plus de croyants, de gens qui croient en Dieu, qu'il y a ces deux mouvements qui coexistent, en fait, en France. Vous en êtes témoin ?
Ça me paraît tout à fait important, et important pour les conséquences aussi qui en découlent pour ceux qui se disent pratiquants, confessants, chrétiens, engagés. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'arroger l'exclusivité. La relation à Dieu, c'est vraiment quelque chose, mais qui nous déborde de tous les côtés. Et donc, la première bonne position, bonne posture pour celui qui confesse le Christ en catholique exigeant, c'est de se dire, mon Dieu, mais je ne suis pas au centre. Le Christ, il est allé chercher le lépreux, il est allé chercher le malade, la samaritaine, la prostituée. Et donc, je suis certainement dans ces pharisiens qui sont en train de s'arroger l'exclusivité du rapport à Dieu et que Jésus va bousculer. Sinon, se situer comme croyant parmi d'autres croyants multiples, l'accès à Jésus, il est le plus large qui soit. Et donc, quand on voit arriver au monastère des gens qui ne croient ni à rien, ni à Dieu, ni à diable, ni à personne, c'est pas grave, ça n'a aucune importance.
Vous avez souvenir d'une rencontre récente,
Une rencontre d'une personne qui croit à rien?
Oui, nous parler d'un visage, d'une rencontre. Pour donner un peu de chair à...
Oui. Je pense à plusieurs. Je pense à deux groupes. C'est un peu particulier, hein, mais c'est tellement fort. Deux groupes qui viennent avec, je vais citer des noms, hein, tant pis, c'est bien aussi. Sœur Solange, fille de la charité, travaille, oui, bénévole, le captif, la libération, l'association parisienne, les gens de la rue. Deux fois par an, elle vient avec les gars, les filles. Donc, une fois les gars, une fois les filles. Les gars, c'est les gars de la rue, les SDF. Eh bien, ceux qui viennent là, ils sont complètement sidérés d'avoir une chambre, d'être à l'hôtellerie, d'être parmi les autres, sans être discriminés, pour 5 jours, 6 jours, où ils sont venus. Alors, bon, un peu trier sur le volet. Sœur Solange, elle sait ce qu'elle fait. Elle propose à l'un, elle propose à l'autre. C'est toujours librement. Et puis voilà, puis il parle avec les moines. Et ben oui, ben je parle avec Dédé ou je parle avec Pierre. Voilà, on fait connaissance. À quoi il croit? Souvent, il y a une foi. Souvent, il y a une foi qui a été aussi bousculée quand Sœur Solange les a emmenés à Lourdes, par exemple. Mais bon, a priori, ce sont des gens très désocialisés, qui sont depuis longtemps dans la galère, qui même parfois refusent l'entrée en appartement, en logement, tout. Ça n'empêche pas qu'on parle ensemble. On joue à la belote. Alors, je joue à la belote avec eux, et puis je suis nul à la belote.
C'est un privilège, non? On ne joue pas souvent à la belote avec le père Abbé. Il ne faut pas s'attendre à jouer à la belote avec vous si on va prendre un temps de désert à l'abbaye d'Anquelle, car je le dis surtout, juste pour ceux qui auraient envie de jouer à la belote avec vous.
C'est surtout un privilège pour le père Abbé de jouer à la belote, parce que ça fait très 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 longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc je l'ai fait perdre, mon Pierre. Et bon, il en a rigolé. Il a dit, j'ai pourtant tout fait pour le faire gagner. Mais non, ça ne marchait pas. Bon, c'est une rencontre... Pour une autre fois, ce sera les filles, voilà, qui viennent au mois d'août.
Alors me vient justement une question à ce sujet, avant qu'on fasse une première pause. Les monastères comme lieu de rencontre, mais aussi d'amitié avec ces dites périphéries. Est-ce qu'à la longue, le monastère devient, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que vous avez fait un choix de vie quand même très particulier, très radical. Vous êtes entre-croyants à l'intérieur de la clôture, est-ce qu'il y a des amitiés qui se nouent justement avec des gens qui sont loin, qui sont de ces dites périphéries? Ça va jusque-là?
Il ne faut peut-être pas forcer le trait, parce qu'on accepte d'être nous-mêmes pour un temps proche d'une personne, mais on ne met jamais la main dessus. Et donc de toute façon, si peut-être la personne passe 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis on ne la revoit plus, jamais. Jamais. Mais n'empêche que dans la prière, moi j'ai retenu un nom, un visage. Et la prière, c'est notre vraie relation au monde, qu'on n'oublie jamais. C'est vrai pour la famille, c'est vrai pour toutes les personnes qu'on a approchées dans sa vie. Et ça, c'est notre métier, notre cœur de métier, comme on dirait aujourd'hui. L'amitié, c'est un privilège, ça peut exister. Et en même temps, c'est frustrant, vous savez, d'avoir un moine pour ami. Parce qu'il n'est pas disponible, parce qu'il est dans sa sphère, il est dans son monde, il ne viendra jamais bouffer chez moi. Enfin, l'amitié avec un moine, ce n'est pas un cadeau, forcément. Mais ça peut être un petit point de référence au-delà de la présence, savoir qu'il y en a un pour qui on compte et qui fait aussi son petit travail de prière.
Parlons un petit peu de Marc. Marc, c'est donc l'évangéliste. On en a parlé lors des deux précédentes émissions. On a essayé de le présenter. La dernière fois, nous avait parlé du choc de la prière, puisque le premier contact, quelque part, avec la vie de Jésus, ou avec un des amis ou des apôtres, c'est quand Pierre donc, est libéré de prison par un ange et qu'il se réfugie chez la mère de Marc. Je ne vais pas refaire l'émission précédente. Dans cette émission, vous vouliez insister sur le Marc. Sur la vie de Marc, sa vie apostolique. Il a donc accompagné Paul et Pierre. Racontez-nous un peu cette vie de Marc.
Donc c'est le neveu de Barnabé. Barnabé qui est un des premiers collaborateurs de Paul, un des premiers envoyés en mission à Chypre. Ça fait partie des tout débuts de l'Église à Antioche. Et à ce moment-là, Marc, qui est tout jeune, c'est le gaffette de service, quoi. On l'emmène avec... Il n'a pas de titre, c'est pas un apôtre, c'est tout juste un disciple, c'est le fils de Marie, voilà. C'est le fils d'une bonne chrétienne de Jérusalem qui a envie de voir du pays, qui est sans doute assez dégourdi, et on se dit, il va nous rendre service. Bon, voilà, ça part. Et ça part très mal dans l'histoire des Actes, ça c'est très important. Qu'est-ce qui part très mal? Ils partent ensemble en mission, Paul, Barnabé, Jean-Marc. Et puis, il repasse...
Jean-Marc, c'est Marc. Et c'est le nom qu'on lui donne dans les Actes des Apôtres.
Voilà, il s'appelle Jean de son nom hébreu, Marc de son nom latin. Et le surnom va finir par l'emporter. Mais c'est un surnom qui lui est venu sûrement bien plus tard, quand il était à Rome, j'en sais rien. C'est très tardif, ce nom. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du voyage, à un moment, Marc fait une crise. Jean-Marc. fait une crise. Je veux revenir à Jérusalem, je retourne chez ma mère. Et Barnabé et Paul s'engueulent, mais en termes très, très nets, hein, c'est la crise, et ils se séparent. Barnabé va de son côté avec Marc, son neveu, et Paul s'en va avec Sylvain, Silas, parce qu'il n'y a plus moyen de travailler ensemble à cause de ce crétin de Jean-Marc qui bouscule nos projets et qui ne veut jamais suivre comme il faudrait. Donc, Jean-Marc, ce n'est pas d'abord le type bien avec qui il est facile de travailler, non. C'est celui qui va compliquer la vie des apôtres et l'obliger à aller ailleurs que là où on avait prévu d'aller. Et de fait, c'est ce qui va se passer. Il va partir ailleurs. Ils vont bousculer un peu la mission. Tout à la fin, il y aura ce témoignage magnifique de la lettre aux Colossiens de Paul, où Paul dira « Oh, si Marc vient, accueillez-le. Accueillez-le. On s'est arrangé avec lui. On s'est entendu avec lui. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Oui, il y a eu des frottements. Oui, il y a eu des emmerdements. » Mais c'est un chrétien. Et donc, on va faire avec. Et visiblement, à un autre endroit, Paul dit Marc m'est très précieux pour l'évangélisation. Il est très précieux. Donc, il y a quelque chose déjà qui est en route. Marc fait du bon travail, mais il n'est pas commode. Et Pierre dira, tout à la fin, Marc, mon fils. Ça, c'est l'hommage suprême du père symbolique qu'est Pierre pour Marc.
Marc qui accompagnera donc Pierre, on dit que c'était un peu son sténographe de Pierre. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Le passage que l'on va parcourir après cette pause musicale, c'est donc l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, 16 à 20. C'est une histoire de mère encore, mais je n'en dis pas plus. Je rappelle le titre de votre livre, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf.
Oh, présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sortir du confinement avec le Père Abbé Dankalka, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce jour, le thème de notre courte série en cette sortie de confinement. Avec vous, frère David, vous êtes prêtre moine bénédictin et Père Abbé donc, de l'abbaye Saint-Benoît, Dankalka, dans le Tarn. Auteur d'un ouvrage, une longue lectio divina de l'Évangile selon Saint-Marc, marque l'histoire d'un choc. Ce passage, donc, promis, chapitre 1, de l'Évangile selon saint Marc, versets 16 à 20. C'est donc une histoire de mer, on pourrait presque le lire in extenso, pour le coup, ce passage. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer. Je suis donc dans la Bible de Jérusalem, car c'était des pêcheurs. Et Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et puis, il en suit un autre appel. En avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans leur barque en train d'arranger les filets, et aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. On a presque l'impression de voir un film. C'est un passage que l'on connaît quand on est habitué peut-être à une certaine vie religieuse et liturgique, mais le propos de ce jour... C'est nous aider à creuser, nous initier indirectement comme ça à la Lectio Divina. La première chose que vous soulignez, une des choses que vous soulignez, à côté de laquelle on peut passer, mais qui dit des choses profondes, c'est que Jésus étrangement choisit des marins pêcheurs.
Oui, c'est une chose que tout le monde sait très bien. On sait que c'est des pêcheurs, les premiers apôtres.
Mais on ne se souvient pas que c'est incongru.
Et voilà. On ne se souvient pas de l'originalité extrême de ce choix que fait Jésus. Parce que Jésus, il ne tombe pas d'une autre planète. Il n'arrive pas comme ça en disant « Tiens, je vais prendre des pêcheurs ». Il est charpentier. Il est d'un village de maçons, constructeurs. On dit charpentier, mais le mot veut dire « c'est un gars du bâtiment ». Les gars du bâtiment qui savent manier le bois, le fer, la pierre, voilà. Bon, et le village de Nazareth est un village de maçons, de gens du bâtiment, à 5 km de là, il y a Séphoris, qu'on est en train de reconstruire à grands frais, avec les Romains et tout le Bataclan, une grande ville neuve, Séphoris. Il y a du boulot à revendre pour les gens du bâtiment, les gens de Nazareth, c'est ça leur monde. Et Jésus, ben, les gens du bâtiment, il les laisse tomber. Alors même qu'on pourrait se dire, bah mince, il va nous transformer en pierre vivante, et s'il avait pris des artisans du bâtiment, c'était une super église. Ben non, il s'en va au bord de la mer de Galilée, et c'est là qu'il appelle des marins. Le mot, on le traduit par pêcheur, parce qu'il y a un jeu de mots, pêcheur d'homme. On ne pourrait pas dire marin d'homme, ça ne veut rien dire. Mais le mot qui est employé, c'est marin. C'est ceux de Aliéis. Les gens du sel, les gens de la mer salée. Ça veut dire ceux qui vont dans les barques, ceux qui vont dans les bateaux, qui vont sur la mer.
Vous vous rappelez que là on en a quatre, mais qu'il y en avait peut-être sept, en tout cas.
Exactement, Jean 21. Voilà. Oui, exactement. Après la résurrection, il y en a sept qui retournent au boulot. Et donc, il y a 7 sur 12. Donc, 7 sur 12, c'est la majorité absolue.
Alors, qu'est-ce que ça dit pour nous?
Eh bien, ça dit des choses extraordinaires, parce que qu'est-ce que c'est qu'un marin à l'époque de Jésus? C'est un type courageux, le marin. Parce que le peuple des Hébreux, la mer, ce n'est pas son affaire. La mer, c'est l'affaire des Grecs, des Phéniciens, les gens de Tyr, de Sidon. Mais ce n'est pas l'affaire des Hébreux. Or, ben voilà, non, les Hébreux, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec. C'est des gens de la terre. Et ben Jésus, lui, il va choisir des marins dans ce peuple-là. C'est-à-dire des gens quand même qui ont le goût de l'ailleurs et le goût du risque. À un moment, on voit que Pierre manque de se noyer, donc il ne sait pas nager. Il est marin, il ne sait pas nager. Ah, ça c'est quand même un peu fort. Mais bon, le courage, mais ça dit plein d'autres choses. Et c'est ça qu'on a du mal à entendre et qu'on laisse complètement du côté de l'illustration. Ça n'a pas d'intérêt, l'illustration, pour nous. Ce qu'il faudrait prendre regarder de près, c'est que un marin pêcheur, c'est quelqu'un qui travaille d'une façon très particulière en solidarité avec d'autres dans une barque. Donc il est toujours la pêche, je veux dire, c'est la pêche de tous. C'est le produit, c'est la bourse mise en commun. C'est tout ça qui est dit par une barque commune, un filet commun, un métier commun. On partage. C'est ça la première dimension de l'Église. C'est qu'on met tout en commun. Ça, les pêcheurs le feront valoir au sein de la communauté Église dès le début. On met tout en commun. On partage tout, comme la pêche. Le deuxième point qui est extraordinaire, c'est quand on pense au monde dans lequel Jésus est venu nous visiter, qui est un monde agricole, donc un monde de, pour être près de chez nous, un monde de récolte, de blé, d'arbres, d'oliviers, d'huile, de vignes, de canards et de poulets, j'en sais rien, tout ça. Ce monde agricole, c'est un monde qui est, si on travaille, on récolte, et on ramasse.
J'allais venir, c'est ce que vous dites, à partir du moment où on sème, a priori, on récolte quelque chose.
Voilà.
Ce qui n'est pas le cas de la pêche.
Et la pêche, c'est pas ça. La pêche, c'est le coup de filet, quoi. Soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Et l'Évangile nous montre exactement ça. Il nous montre les apôtres avaient passé toute la nuit à pêcher, ils étaient bredouilles au matin. Et puis d'un coup, un seul coup de filet, et là, c'est débordant, les barques en écrasent sous le poids du poisson. C'est ça la pêche. C'est-à-dire que c'est le monde de la grâce. C'est pas le monde de l'efficacité marchande. C'est le monde du don. Ça nous a été donné. Quand l'Église va réussir un coup, ce sera toujours un coup de la grâce, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas mérité, qui n'est pas prévisible. On pourra s'échiner toute une nuit en Église à travailler sans résultat zéro, mais au matin, un seul coup de filet va brusquement, l'Église de Corée va fleurir, ou bien je ne sais pas où.
Alors, comme c'est une émission qui se veut être un long temps de relecture de ce temps de confinement, et puis pour essayer d'en sortir avec, comment dire, en gardant quelques pépites ou retour sur soi, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies en fil rouge de cette émission, c'est donc de parler d'une attitude du chrétien qui serait d'abord un homme appelé à vivre en amitié avec ses dites périphéries, puisque c'était l'objet de notre première de la première partie de l'émission. Pour nous, quelle est un peu la leçon de sagesse à tirer derrière ce commentaire de l'Évangile selon saint Marc et l'appel des quatre premiers disciples?
Alors, je vois surtout cet appel qui est celui qui résonne dans la mer au sens d'un ailleurs, les autres. La rencontre, prendre la mer pour Jésus, traverser la mer, puisqu'il traverse la petite mer de Galilée. Oui, mais quand on traverse la petite mer de Galilée, on arrive en terre étrangère. La Galilée de l'époque, elle est morcelée en de multiples petites régions, avec des rois, des préfets, des gouverneurs. Enfin, voilà. Donc on va à l'étranger quand on traverse la mer. C'est ça que Jésus fait vivre à ses apôtres, parce que après la résurrection, ces mêmes apôtres, ils vont traverser la grande mer, la Méditerranée, et ils vont aller en Italie, en Grèce, en Asie mineure, partout. Et donc, le premier enseignement de ces 8 chapitres de Marc qui nous parlent de la mer, c'est que être chrétien, c'est aller vers un autre. On n'est pas chrétien pour soi. On est chrétien parce qu'on a au bord des lèvres quelque chose pour les autres. On a une bonne nouvelle qui est à porter plus loin que soi. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, c'est paradoxal quand c'est un moine qui le dit.
Vous insistez aussi sur certains mots de cet évangile selon saint Marc. Y en a un sur lequel vous revenez souvent. Vous dites que c'est même une marque de fabrique de Marc, c'est aussitôt. Je vous laisserai commenter. Et là, vous insistez aussi sur laissant. Donc derrière, il y a à chaque fois comme une surprise, une immédiateté. Et qui dit quelque chose de la force du choc et en même temps aussi de la radicalité à laquelle on est appelé. Pouvez-vous commenter cet aussitôt et ce laissant?
Oui, aussitôt, c'est vrai que...
Ça revient donc...
Très souvent dans tout l'évangile de Marc Et de fait, comme ni Luc ni Matthieu n'ont repris ce petit adverbe aussitôt, on a dit bah, c'est la marque de fabrique de Marx, c'est son tic d'auteur. Alors, c'est un tic d'auteur, non, pas seulement. Ça nous dit quelque chose, justement, du choc, c'est-à-dire de l'effet que produit Jésus sur ses interlocuteurs. Il ne laisse pas indifférent. Et d'emblée, il se passe quelque chose. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est non, c'est laisse les morts enterrer les morts. Laisse ce que tu es en train de faire. Si tu veux me suivre, c'est pas demain. Ah mais je voudrais aller voir mes parents. Non, c'est tout de suite. L'appel, quand Jésus touche, il y a quelque chose de radical et d'extrêmement rapide dans ce qui s'en suit. Alors c'est vrai que c'est l'événement de la rencontre de Jésus. Qu'après, ben, il faut vivre, on prend un rythme autre. Mais je pense que toute une vie chrétienne le laisse tomber ça, lâche ceci. Ça va résonner, ça va se revivre de multiples fois parce qu'on est des animaux possessifs et qu'on s'attache et qu'on veut garder et qu'on fait des réserves et que toujours Jésus nous dira mais lâche ça, de quoi tu as besoin ?
Donc, ce qui veut dire à vous entendre qu'il faut s'attendre à comment dire, il faut avoir le cœur bien accroché. Alors, pour vous parlez des marins pêcheurs, vous dites aussi à un autre moment que la mer, c'est vous en avez parlé plusieurs fois, c'est quand même un monde à la différence de bien des mondes où à un moment on est dans une vraie zone de danger parce que on est quand même sur une frêle esquive. Qu'il faut bien du courage, que les pêcheurs sont courageux et puis il faut être prêt à lâcher, passer toute sa vie à lâcher prise comme on dit aujourd'hui souvent.
Bon, c'est vrai, c'est le lâcher-prise, mais pas dans le sens tellement d'une sorte d'aisance psychologique, d'un bien-être. C'est pas du cocooning, hein, c'est suivre le Christ, c'est un rythme. Ça me paraît très important, c'est un rythme. L'évangile de Marc est incroyablement rythmé. On est toujours dans la relance, toujours il se passe quelque chose. Je crois que notre vie de chrétien commence à être intéressante quand elle se rythme et que la relance, c'est la rencontre, la relance, c'est le matin, le jour. C'est-à-dire ces rythmes de la vie qui sont tellement précieux et dont peut-être la civilisation nous a un peu écartés parce qu'on éclaire la nuit comme le jour, parce que les horaires se sont décalés des rythmes biologiques. Vivre proche d'un rythme, c'est aussi vivre la nature, les saisons, le fait de grandir, de se marier, d'avoir des enfants.
Quel est le rapport avec le fait de laisser ou de lâcher ?
Il faut toujours lâcher l'enfant pour devenir adolescent et lâcher l'adolescent pour devenir adulte. Je veux dire, c'est une perspective de croissance. Il n'y a pas de croissance qui puisse s'opérer sans des lâchages successifs. Une maman, c'est pas une grosse petite fille, c'est quelqu'un qui s'est transformé et qui a vu sa vie se transformer 100 fois.
On va faire une pause et puis on va vous retrouver. On parlera après, donc ce sera notre dernier parcours de l'évangile selon saint Marc toujours. Cette fois, ce sera chapitre 10, versets 17 à 22. Vous nous parlerez du jeune homme riche, comme aussi une manière de comprendre en fait... À quel service nous sommes appelés, à quel type de relation avec Dieu et surtout avec les autres. Ça sera notre dernier focus et dernier temps de relecture aussi de ce temps de confinement. Je rappelle à nouveau le titre de votre livre « Marc, l'histoire d'un choc » paru aux éditions du Cerf.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sortir du confinement avec le Père Abbé dans quel cas ? C'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour pour ceux qui par hasard nous rejoindraient. Dernière émission de notre mini-série à la fin de ce temps si particulier, frère David. Vous êtes prêtre, moine bénédictin et donc père abbé de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît, en quel cas dans le Tarn. On va donc, pour finir, parcourir l'évangile selon Saint-Marc, chapitre 10, versets 17 à 22. C'est donc la fameuse histoire du jeune homme riche, connu, très connu de certains. Pour les autres, eh bien, un homme vient à la rencontre de Jésus, se jette à genoux devant lui. Vous nous direz aussi peut-être... l'importance de ce geste, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de gens qui se jettent aux pieds de Jésus dans l'évangile et qui lui demandent ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et s'ensuit un dialogue entre Jésus et cet homme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage de l'évangile dans cette intention qu'on avait à l'occasion de cette dernière émission d'essayer de voir à qui, dans le fond, Dieu s'adresse en premier et à qui aujourd'hui, une fois maintenant sorti du confinement, auprès de qui on est envoyé.
Ce qui me paraît essentiel dans cette petite scène, c'est que cet homme-là dit non. Cet homme-là dit non à Jésus. Il ne veut pas le suivre. Jésus lui propose, vends, donne tes biens aux pauvres et puis viens, suis-moi. Et il s'en alla tout triste. Ça n'a l'air de rien, mais c'est révolutionnaire de raconter l'histoire de celui qui n'a pas voulu marcher. C'est-à-dire que l'Église raconte aussi l'histoire d'un qui n'a pas voulu rentrer dans l'histoire. Et le confinement, pour moi, c'est aussi cette absolue objectif que Dieu a de nous retrouver dans notre liberté, de s'adresser à notre liberté. Rien n'intéresse Dieu sinon ma liberté. Et c'est pour ça que ce texte, je trouvais important d'en parler. Dans un moment de crise, comme celui que le confinement nous a fait vivre, tous, la liberté, elle est drôlement mise en péril, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des lois nouvelles, parce qu'il y a des empêchements de multiples façons qui nous rejoignent. Et dès lors, où elle s'exerce, ma liberté ? Comment elle va pouvoir s'exercer ? Sûrement dans quelque chose de plus subtil, de plus délicat, puisque la transgression, ça n'a pas d'intérêt. Et en période de confinement, on sait que la transgression, ça va se payer très cher. Ça n'a vraiment, c'est pas pour prendre un PV que je vais sortir, et encore moins pour contaminer qui que ce soit. Donc il faut chercher la liberté ailleurs. La liberté, elle est intérieure. Elle est dans un monde tout à fait personnel et singulier. Et je crois que le confinement nous a permis parfois d'approcher ce moment où je sais que je suis un homme singulier avec une liberté personnelle.
Alors vous dites aussi, au risque de faire un tout petit détour, que ce qu'il faut voir, enfin, il faut voir quelle est l'attitude profonde de cet homme. Vous dites qu'il utilise le jeu plus que le tu. Il est très centré sur lui-même. En fait, il vient demander quoi ? Enfin, une recette, le mot est peut-être fort parce qu'on n'était pas dans son cœur. Mais il cherche à acquérir en fait quelque chose de plus que ce qu'il a, la vie éternelle à vous lire.
Sa prière, alors vous avez fait remarquer, ça me paraît important, cet homme se jette aux pieds de Jésus. Donc il vient pour faire une prière. Alors il y en a un autre dans l'évangile de Marc qui se jette aux pieds de Jésus, c'est le lépreux du premier chapitre. Celui-là aussi. Mais le lépreux, il dit, tu peux y faire quelque chose. Guéris-moi, tu peux. Et il s'adresse à lui, tu peux. Tandis que le...
Lui, c'est Jésus, en l'occurrence.
Oui, bien sûr, c'est à Jésus que le lépreux s'adresse. Tu peux me guérir. Le jeune homme riche, il vient et il demande, que dois-je faire, moi, pour avoir la vie éternelle ? C'est-à-dire qu'il ne demande pas à Jésus de faire quelque chose. Il dit, moi, je vais trouver le moyen de faire quelque chose. Dis-moi, donne-moi la recette de sagesse. Hein. Ce n'est pas vain, ce n'est pas une mauvaise prière, mais on voit bien qu'il n'y a pas du tout le même rapport à l'autre. Il n'y a pas le même rapport à l'attente. Ce n'est pas d'abord, ô toi Seigneur, tu peux quelque chose pour moi. C'est moi, qu'est-ce que je vais. Quel est le bon système pour que je m'en sorte dans cette crise? Voilà comment le jeune homme riche s'approche de la prière. Quel est le bon système pour que je m'en sorte, pour que je fasse mon affaire? C'est un homme, effectivement, qui est relativement prisonnier de ses bonnes observances. Chez Marc, il n'est pas jeune. On l'appelle le jeune homme riche parce qu'on a surtout en tête le texte de Matthieu, qui est le plus souvent lu dans la liturgie. Alors, il est jeune, voilà. Mais chez Marc, il n'est pas jeune, il est observant. Il est surtout très observant, il est pieux, il est dévot. Et il suit les commandements depuis qu'il est tout jeune. Mais il y a une chose incroyable, cette petite phrase, « Jésus l'aima », le regardant, « Jésus l'aima ». Alors, certains auteurs disent, il y a une espèce de, un peu bêtasse, quoi. Jésus est pris d'un sentiment, il trouve ce type sympa.
Ça n'arrive pas souvent dans l'évangile, en tout cas,
que soit fait cette mention. C'est unique. Oui, c'est tout à fait unique.
Après,
c'est la première fois qu'on entend ce verbe dans l'évangile.
Il y a le disciple que Jésus aimait aussi.
Alors ça, c'est chez saint Jean.
Oui.
Et c'est très important.
Le fait que Jésus pleure aussi sur son ami Lazare, on imagine que là,
exactement.
Son amour affleure.
Exactement. Mais plus l'évangile va se déployer, plus va fleurir cet amour, même dans l'évangile de Marc. Là, on est au chapitre 10, mais au chapitre 12, il y aura la rencontre fameuse du scribe où Jésus va expliciter « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même », en faire la loi la plus essentielle, la plus récapitulative de l'évangile. Ça, c'est un épisode prodigieux. Mais là, on est dans les prémices. Les prémices, c'est que l'initiative de l'amour revient à Dieu. Elle revient à Jésus. Ce n'est pas nous qui aimons le premier. Jean le dira de façon confondante en disant « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » Ça, c'est fondamental pour le chrétien. Se découvrir d'abord comme aimé par Dieu.
Est-ce que c'est le même renversement? Parce que vous faites aussi un commentaire sur le bon. Cet homme riche, puisque là, ce n'est pas un jeune homme, lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et puis Jésus le reprend. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et puis il ajoute « Nul n'est bon que Dieu seul. » Vous dites que pour vous, il est comme ironique, Jésus, et il vient surtout renverser la perspective de la bonté. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer
ça ? Tout à fait. Plus la bonté, c'est pas le mot que j'emploierai, parce que la bonté, c'est très positif. Non, c'est la problématique du bien et du mal,
du bon et
du mauvais, du pécheur et du juste, quoi. Le juste et l'injuste. Depuis le début de son évangile, Jésus a déclaré dès le chapitre 2 « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». Bon, et ça a fichu, c'est le pavé dans la mare. Hein. Ça, c'est la première parole de Jésus qui lui met à dos les pharisiens qui se croyaient des justes. Et ici, on est absolument dans la même logique, c'est-à-dire que plus on regarde de près ce que Jésus dit du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du pur et de l'impur, plus on voit que ce n'est pas du tout la vision morale traditionnelle. Traditionnellement, on fait tout ce qu'il faut pour être bien, pour être juste, pour être pur. Bon, Jésus, il s'en fiche, quelque part. Et il nous dit, mais tant que tu en restes là, mon pauvre vieux, tu n'es pas sorti de l'auberge. Tu fais que te regarder, et là, tu te mesures à quoi? Tu te mesures à qui? Non, ce que Jésus fait, il l'aime. Au moment où il l'aime, il lui dit, suis-moi. C'est un tout autre appel. C'est un tout autre appel que fais le bien, vas-y, améliore-toi, sculpte ta statue. Non, suis-moi. Suis-moi, c'est sûr que ça va passer par des actions, entre guillemets, vertueuses, mais pas par le même chemin. Et le plus net, c'est que cet appel qu'il adresse au jeune homme riche, c'est quoi? Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Cinq verbes d'action. Que des trucs à faire, et puis du chemin. Va, viens, ça va bouger. et se déposséder, lâcher, on en a déjà parlé.
Qu'est-ce que ça nous dit, puisque le fil rouge de l'émission, c'est d'essayer de voir à quelle attitude en fait on est appelé à l'égard de ceux qui sont loin, hein, de ces fameuses périphéries, puisque maintenant on est sorti du confinement, et qu'on peut rester dans nos peurs, on peut se regarder, on peut être un peu dans l'entre-soi, bref, d'essayer d'un peu de faire rentrer de l'air dans toute notre vie, en voulant regarder loin. Qu'est-ce que ça nous dit de l'attitude qu'on doit avoir, ce renversement radical dont vous venez de parler, que Jésus pose dès le début en fait, de sa vie apostolique, oui. Et puis là on en trouve un écho, oui. Très, très fort.
J'aime bien appeler ce phénomène la loi du détour. La loi du détour, c'est la même loi que Jésus va énoncer avec le double commandement. Aimer Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute son intelligence, de tout ton esprit. Ah, ça c'est totalitaire, tu ne vas pas y arriver, tu vas mourir. Alors, aime ton prochain. Fais un détour par le prochain. Là, tu vas trouver Dieu. Alors ça c'est extraordinaire comme dynamique. Eh bien, c'est la même chose qui est déjà ici. Tu veux Dieu, tu veux le royaume, va, vends, donne aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Fais le détour par les autres. Le détour par les autres, c'est le salut du chrétien.
Et dans ce détour, il faut, entre guillemets, il faut, le mot est mal choisi, mais on peut faire un détour par des autres qui sont des semblables.
Oui, mais là c'est un peu...
Votre expérience dans la vie monastique, c'est que
peu exigeant,
c'est bien des dissemblables qui viennent vous voir.
C'est... Oui. Mais c'est surtout les pauvres. C'est-à-dire que, vous savez, on a beau avancer en âge, le pauvre, c'est toujours celui que je n'ai pas tellement envie ni d'accueillir. Ni... Il me fait peur, le pauvre. L'autre, en tant qu'il est en manque, qu'il a besoin de moi, là, c'est dur. Eh bien, c'est vers celui-là que Jésus envoie. Il n'envoie pas vers tes copains, il envoie vers le pauvre. C'est-à-dire... L'amour de Dieu pour nous est un amour qui descend, qui consent à nous rejoindre dans nos ornières et dans nos pauvretés. Ben, nous, c'est un petit peu pareil. Si je regarde tout le temps celui qui est brillant, la star, le numéro un, je ne vais pas avancer dans la vie chrétienne. Si je consens à me retourner, à vivre avec celui-là qui est moins brillant, moins intéressant, qui me paraît peut-être pas à la hauteur, ah, d'un coup, là, je vais me rapprocher de ce chemin du Christ. Alors, situation de confinement, bah, c'est une situation où je ne peux pas fuir la relation à l'autre. Il est là, il est dans ma maison, elle est dans ma maison, et c'est avec eux que je fais le chemin. Comme on est tous un peu parano, on croit toujours que les autres sont moins bien que soi, hein.
Eh ben merci beaucoup. Vivons déconfinés, et c'est un vaste programme à vous avoir suivi, avoir suivi l'évangile de Marc, et puis ce qu'on peut en lire en fait de ce que nous dit Jésus au long de ce commentaire que vous nous avez proposé de l'évangile selon saint Marc. Je vous rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf, et un autre ouvrage que j'avais cité la fois dernière. C'est une version peut-être plus grand public, même si ça n'est pas le même thème. Âme sœur, au singulier, aux éditions Albin Michel, avec comme sous-titre « Fragments de vie intérieure ». Vous dites que c'est une forme d'initiation à la vie intérieure. Âme sœur, Albin Michel, Marc, l'histoire d'un choc, aux éditions du Cerf. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.